À 13h21, moins 4 degrés Centreville, Trois-Rivières. Salut, Jérémy.
Salut.
Tu es toujours en Floride?
Ben oui, en fait, je suis arrivé hier, ça a été compliqué. Là.
Ben oui.
Mais finalement, on a fini par partir à 15h. Puis la bonne nouvelle, c'est que j'avais deux amis avec moi dans l'avion. J'avais Nick DeSantis, bien sûr, de l'organisation de l'Impact.
Ben
mais
oui.
Il y avait aussi le nouveau joueur de l'Impact, Orji Okwunkwo, qui était dans l'avion, qui s'en allait lui aussi au stade, puis qui essayait de se rendre à temps pour le début du match. Finalement, on est arrivé à la 20e minute de jeu au stade, tous ensemble, avec un chauffeur de taxi qui a quand même fait plusieurs bons efforts pour essayer de nous rendre là à l'heure.
Oui.
On a regardé ensemble les 20 premières minutes sur mon téléphone, sur la banquette arrière. C'était quand même assez plaisant, mais écoutez, c'est ça les plaisirs de voyager. On sait jamais, hein, mais... On s'est rendu à destination, puis aujourd'hui, ici, je pense qu'il fait 27 degrés, beau soleil, comme d'habitude.
C'est un peu chiant, ça, quand même.
Je me demande pourquoi ils ont un poste de météo à TV ici en Floride, sérieusement, là, tu sais. Ils pourraient dire, bon, soit dit en passant, aujourd'hui, c'est la journée du mois où il va mouiller un peu en après-midi. Et c'est tout, on s'en reparle le mois prochain. Pour le reste, il va faire beau comme d'habitude.
C'est la chronique mode, la météo, la bosse, pour savoir si tu mets des pantalons trois quarts, des shorts ou un G-string.
Ouf. Ouais, c'est ça. Non, écoute, tu te trompes pas trop. Là. Honnêtement, là, c'est rare que tu es obligé d'ouvrir ta porte ici pour voir dehors comment t'habiller.
Ouais. Finalement, est-ce que Okwunkwo a joué vu que vous êtes arrivé 20 minutes après le début du match? Non, c'est ça. Hein?
Non, il a pas joué. Possiblement qu'il va jouer samedi. Je lui ai reparlé ce matin, puis il a dit que lui, il était prêt pour jouer samedi si jamais on avait besoin de ses services dans le dernier match. Je pense que ce serait le fun de le voir en action dans le dernier match préparatoire avant que le début de la saison commence. Lui, il est prêt à jouer. Et de la façon dont il nous a expliqué ça ce matin, disons qu'à Bologne, là, c'est pas trop une belle saison cette année. Donc, quand on lui a proposé sur le coup, il dit « on venait de perdre un autre match, puis c'était comme un peu de ma faute. » Fait que j'étais bien content qu'il me propose de m'en aller. Mais j'ai été quand même aussi triste sur le coup, mais il dit là, regarde, je suis arrivé, puis j'ai été surpris de voir à quel point tous les joueurs dans l'équipe sont venus me voir, sont venus me parler. Déjà, je me sens très à l'aise, donc un jeune homme de qui on va parler beaucoup au courant de cette saison.
Ouais. Un qui est moins jeune et qui a décidé d'accrocher, c'est Georges St-Pierre. Peut-être que je suis pas assez à la UFC, mais j'ai l'impression que ça vient un peu, pas de nulle part, mais c'est tôt, me semble.
Non, je pense que c'est réfléchi dans le cas de Georges St-Pierre. Puis on en a parlé un petit peu hier à chaud, là, parce que la nouvelle venait de tomber. Georges a eu des difficultés avec la UFC dans les dernières années.
Ouais.
Surtout parce que il s'est battu là. Il en a fait son cheval de bataille, là, cette histoire du dopage dans la UFC, mais aussi il a fait un peu un pied de nez à la UFC en gagnant le titre contre Michael Bisping et en remettant la ceinture immédiatement à la UFC. Et en n'acceptant pas de la défendre immédiatement. Puis, tu sais, moi, pour avoir côtoyé plusieurs boxeurs, le plus gros défaut des athlètes qui performent des sports de combat, ils ne savent pas quand se retirer. Ils n'ont pas le sentiment, ils ont toujours le sentiment de pouvoir continuer. Et à un moment donné, ça devient dangereux. Et dans le cas de Georges St-Pierre, écoute, c'est inhumain ce qu'il faisait. Il passait des années sans se battre. Et là, il remontait dans l'octogone et il gagnait en plus et de façon dominante. Donc, c'est un gars qui est sorti de la norme du monde du sport, honnêtement, on va le dire comme ça. Là. Et les gens s'en rendent peut-être pas compte. Puis nous, ici, on en a beaucoup pour le Canadien. Mais faites une petite recherche Google là, sur votre ordinateur. Puis tapez Georges St-Pierre et tapez Carey Price. Vous allez vous rendre compte que le nombre de pages sur lesquelles on écrit sur Georges St-Pierre comparativement à Carey Price, ça se compare pas du tout. Donc, son étoile, là, elle est immense au niveau international. Je me demande même s'il y a déjà eu un autre athlète québécois qui a eu un aussi gros rayonnement que Georges St-Pierre.
Effectivement, c'est une méga vedette. Il nous a fait connaître, d'ailleurs, les arts martiaux mixtes. T'as-tu l'impression, Jérémy, est-ce qu'il y a eu... Il y avait encore... Ou est-ce que... Comment je pourrais te dire ça? Parce que je veux parler du respect qu'on pouvait avoir encore vis-à-vis Georges St-Pierre. C'est-à-dire du côté de l'UFC, du grand patron Dana White. As-tu l'impression qu'il a respecté suffisamment Georges St-Pierre jusqu'à la fin de sa carrière? On a l'impression, des fois, qu'il était souvent un couteau tiré avec St-Pierre.
Ouais. Ah non, ça aurait pu être mieux géré, ça, c'est certain. Dana White, c'est une tête de cochon, malheureusement. Puis quand t'as une super vedette comme Georges St-Pierre qui, il faut le dire, je veux dire, regardez un peu la UFC, là, puis regardez les champions, puis regardez les comportements. ils avaient une perle rare en Georges St-Pierre qui, premièrement, performait dans l'octogone, était un excellent modèle, mais surtout, en conférence de presse, rarement utilisait des vulgarités ou des obscénités pour essayer de déstabiliser ses adversaires. Et c'est comme ça que la UFC devrait se vendre. Donc, il aurait dû se servir de Georges St-Pierre et dire, voici le modèle qu'on veut avoir dans notre business. Et on veut travailler avec lui. On veut que les jeunes le prennent comme modèle et l'imitent. Mais non, à place, ben on a été à couteau tiré pour l'histoire des tests antidopage, puis le fait que Georges, à la toute fin, il voulait choisir quand même les moments où il allait se battre. Il ne voulait pas se battre contre n'importe qui, n'importe où, pour n'importe quel montant. Puis ça, ça a dérangé la UFC. Georges St-Pierre, ça a été le seul qui a été capable, juste à ce niveau-là, de déstabiliser la UFC, qui, disons-le, il n'y a pas de syndicat des combattants. Là. Souvent, les gars vont embarquer dans l'octogone pour des sommes qui sont ridicules. Puis Georges, lui, à un moment donné, a décidé que c'était assez. Il fallait qu'il soit payé en conséquence. Les plus grands athlètes de boxe faisaient à peu près 10 fois ce que Georges St-Pierre faisait. C'était inacceptable à ses yeux. Et il avait raison de le demander.
Oui, et on sent la baisse de popularité. En tout cas, moi, j'en entends parler moins que jamais depuis qu'il n'est plus très actif, Georges St-Pierre, pour la UFC. Je pense que c'est un élément qu'a négligé Dana White, entre autres, de dire ce gars-là n'est pas seulement notre plus grande star, il est aussi notre porte-étendard, à quelque part. Là.
Exact.
Maintenant...
Exactement. En tout cas, pour l'image de la UFC... C'était l'homme parfait. Malheureusement, ben, on a décidé de se chicaner avec au lieu de travailler avec lui.
Oui, exact. Canadiens Flyers, ce soir, c'est un défi de taille. Puis on le dit souvent, c'est une formule consacrée. Sauf que là, les Flyers sont sur une sacrée séquence.
Oui, sauf que les Flyers, tu sais, je pense qu'ils vont finir par manquer de gaz. Là. C'est pas impossible qu'ils complètent leur remontée. Là. Faut penser un peu aux Sénateurs d'il y a quelques saisons. Je sais pas si vous vous souvenez, qui étaient sortis du portrait des séries et avec le Hamburglar, oui. Vous vous en souvenez,
oui.
avait connu une fin de saison absolument incroyable pour finalement se faufiler en séries éliminatoires, mais on s'entend, les chances mathématiques sont très minimes que les Flyers puissent entrer dans les séries éliminatoires. Ceci dit, on a vu un peu de nervosité chez le Canadien dans le match contre les Blue Jackets de Columbus mardi soir au Centre Bell. Est-ce que le Canadien aura passé par-dessus cela ou est-ce qu'on va jouer aussi nerveusement contre les Flyers qui sont sur une bonne séquence? Je ne sais pas. Au moins, on pourra compter sur le retour de Philippe Dano. Ça, c'est une bonne nouvelle chez le Canadien de Montréal. Et on va suivre ça de près ce soir, bien sûr, même nous ici en Floride, là, les journalistes collègues qui suivre les activités de l'Impact. On va se faire un petit souper dans un bar sportif, mais on va regarder ça en gang.
Ah, très intéressant. Puis là-dedans, Jérémy, j'ai hâte de voir notamment, ben tu sais, c'est plate qu'on les ait pas mis en uniforme, ces gars-là, mais tu sais, ça aurait été intéressant de voir Day-Louise dans la formation du Canadien ce soir, puis l'excellent Schlemko de l'autre côté.
Oui, mais écoutez, je pense que d'un côté comme de l'autre, là, on s'entend, on s'est échangé des problèmes en espérant qu'il y en ait un des deux qui puisse être relancé avec sa nouvelle équipe. Mais faut pas se surprendre que ces deux gars-là se retrouvent dans la Ligue américaine non plus. Là.
Non.
De toute façon, on n'avait plus bien le choix chez le Canadien il y a 2 jours. Lorsque Byron a été réactivé, il y avait trop de joueurs. Et le candidat le plus facile à envoyer en bas, c'était Day-Louise, malheureusement.
Tu es dans la région de Tampa Bay, Jérémy.
Oui.
Tu vas-tu jouer l'espion concernant de la situation des Rays et du baseball?
Je pense pas avoir le temps de travailler là-dessus. Honnêtement, là, c'est un immense dossier.
Ah,
je suis juste ici pendant 4 jours, puis je vais me concentrer beaucoup sur l'impact. Mais mais je te dirais que c'est un dossier qui est chaud, hein, parce que ça s'adonne que le stade où joue présentement l'Impact, c'est un stade qui appartient aux Rays.
Ah, tiens.
Le site d'entraînement de l'Impact, c'est le domicile des Rowdies de Tampa qui jouent dans la USL. Et cette équipe-là a récemment été achetée par Stuart Sternberg, le propriétaire des Rays. Donc, on dirait que tout est interrelié dans ce dossier-là. On dirait que tous les chemins font en sorte qu'on repasse par Montréal quand on parle des Rays de Tampa. Mais Stuart Sternberg a dit pas plus tard qu'hier qu'il regrette de ne pas avoir travaillé encore plus d'arrache-pied pour essayer de faire construire ce fameux stade à Ybor City, là, non loin du centre-ville de Tampa. Ça n'a pas fonctionné. Et hier, lorsqu'on lui a reposé la question par rapport à un autre stade à Saint-Pete, il a dit, honnêtement, je ne sais pas comment je vais bien pouvoir convaincre les autres propriétaires que de construire un autre stade au même endroit, ben ça va fonctionner cette fois-ci, parce que clairement, ça fait 21 ans qu'ils sont là et ça n'a jamais fonctionné. Donc, je comprends un peu sa logique. On dirait, là, sais, il commence à parler comme un gars qui, tu sais, qui regarde vers l'avant puis qui regarde vers d'autres options.
C'est ça qui va dire bientôt, c'est pas toi, c'est moi.
C'est ça, exactement. Malheureusement, il faut que j'y aille.
Exact. Ben Jérémy, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine.
OK, salut.
Bye-bye, Jérémy Fleuzet, avec qui on parle de sport tous les jours de la semaine, à l'exception du vendredi aux alentours de 13h20. Il y a Claude qui est en bout de ligne, qui est là depuis un petit moment. Bonjour, Claude.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir patienté.
J'ai été marié longtemps, je suis un homme patient.
Merci d'avoir... Oui, on vous écoute.
Deux petits commentaires. La députée qui a fait cette déclaration-là,
oui.
Je comprends pas pourquoi on monte sur nos grands chevaux pour ce qu'elle a dit.
Vous parlez d'Émilie Lessard-Terrien, là.
C'est ça. Elle n'a pas une langue de bois. Mm-hmm. Elle a dit les choses comme elle les pensait, puis elle a employé des mots que tout le monde comprend. Alors, je vois pas où est le scandale dans ça. Le politiquement correct, là, des fois, on pourrait peut-être le laisser de côté.
Mm-hmm. Bon point.
L'autre sujet, l'accaparement des terres. J'ai entendu Mme Boulay tantôt dire qu'il y a des gens qui achètent des terres, puis ils font rien parce qu'ils veulent avoir des grands espaces, etc. Écoutez, elle disait que c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est assez simple à régler. J'ai l'impression parfois que dans tous les ministères, dans tous les bureaux, il y a une affiche là, qui a un adage dessus. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ils ont juste à passer une loi à l'effet que l'acheteur d'une terre devra la cultiver pendant les 15, 20 ou 25 prochaines années. Puis dans 25 ans, on verra ce qu'on est rendu. C'est pas plus compliqué que ça, il me semble, là. À quelque part, moi, je vais aller m'acheter une terre. Il y a de l'avoine ou du blé qui a été cultivé ou du blé d'Inde. Bon, j'ai juste à continuer la production ou à la louer à quelqu'un, comme Mme Boulay disait.
Ouais.
Et puis, l'agriculture va continuer. S'il y a une loi qui dit qu'il faut que l'agriculture continue sur cette terre-là pour le nouvel acheteur, ben, que ce soit des prédateurs chinois, russes ou québécois,
c'est ça.
Ils vont avoir entre les mains le papier puis ils vont savoir quelle obligation qu'ils ont.
Claude, merci beaucoup d'avoir appelé.
Ça m'a fait plaisir.
Merci,
bye bye.
Merci d'être au rendez-vous pour Midi Plus. C'est très apprécié. Vous êtes toujours les bienvenus dans cette émission, que ce soit par l'un ou l'autre des moyens de communication.